des livres plein les oreilles.
Moi, je m'en lasse pas de cette petite musique-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde Seille au micro du Chic Studio de Canal M à Montréal, sur la rue Sherbrooke, qui produit ce balado des livres plein les oreilles depuis maintenant 12 ans. Cette semaine, du moins en première partie de cette émission, regard sur les déplacements, sur le déracinement, ici comme ailleurs. J'ai des extraits de livres audio pour vous. C'est peut-être pas ceux que vous attendez, du moins je l'espère, parce qu'il y a tout de suite des livres qui nous viennent à l'esprit. Eh bien, ce ne seront pas ceux-là. J'ai pris soin de vous en faire découvrir d'autres plumes, d'autres auteurs, d'autres narrateurs. En seconde partie, j'ai demandé à Gérald Cousineau de nous parler d'Une drôle de peine de Justine Lévy. Il va donc s'exécuter, notre Gérald National. Et puis, j'ai trois nouveautés en audio à vous faire entendre, dont un des livres les plus vendus, apparemment, au Québec en 2025, Piège Laval de Raphaël Saint-Germain. Mais d'abord, puisque nous parlons d'émigration, écoutons ceci.
Vous avez un grand rêve? Allez vivre au Canada! Ou vous y êtes récemment arrivé et aimeriez savoir comment trouver vos repères dans un pays si vaste et, encore, étranger. Le Canada est une terre d'opportunités et de diversité, où chaque nouvelle histoire d'immigration ajoute une nouvelle couleur à la grande toile de ce pays. En tant qu'immigrante depuis plus de 3 décennies, je me souviens encore du mélange d'excitation et d'appréhension qui m'a accompagnée lors de mon arrivée d'Algérie à l'âge de 11 ans. Mon parcours, marqué par des réussites et des défis, a forgé ma conviction profonde de l'importance d'un guide complet pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Au fil des années, j'ai eu le privilège de travailler étroitement avec de nombreux nouveaux immigrants, partageant leurs rêves, leurs luttes et leurs triomphes. C'est cette expérience, combinée à ma propre histoire, que je souhaite partager à travers ce guide. L'objectif est de fournir des conseils pratiques et inspirants à tous ceux et celles qui entreprennent ce voyage vers une nouvelle vie au Canada, quelle que soit leur origine. Ce livre n'est pas un simple manuel, c'est un compagnon bienveillant destiné aux nouveaux arrivants pour vous guider, vous aider à surmonter les obstacles avec confiance et pour vous encourager à embrasser les opportunités qui s'offrent à vous. Des démarches d'installation aux nuances de l'adaptation culturelle, en passant par les loisirs, la recherche d'emploi et les complexités du système financier, chaque chapitre s'emploie à orienter le lecteur vers une intégration réussie.
Alors oui, si vous voulez, vous aussi, ou si vous connaissez des gens qui veulent émigrer dans le plus beau pays du monde, en l'occurrence le nôtre, voici, c'est un extrait du cahier, appelons ça comme ça, qui s'appelle « Canada, des petits conseils pour un grand pays ». Et là, je les cite, c'est donc un cahier de 176 pages qui existe en audio, vous l'avez entendu. Guide pratique publié par SO Publications, conçu pour faciliter l'immigration, l'installation et l'intégration des nouveaux arrivants. Tiens, SO Publications, d'ailleurs, je serais curieuse de savoir, parce que j'ai le nom d'une narratrice, Ève Lantier, mais ça sonnait beaucoup, beaucoup, beaucoup intelligence artificielle. C'est quand même dommage de montrer à des gens, à des étrangers, comment peut-être ils pourraient gagner leur vie ici, dans notre beau pays, et de ne pas faire travailler des gens de ce beau pays, mais d'utiliser la machine. Parce que, écoutez, nous, on a l'oreille un petit peu. Puis quand on entend toujours les mêmes respirations, et pas toujours à la bonne place, et que même parfois elles sont coupées, tu te dis, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas humain. Alors, c'est peut-être la voix de Madame Lantier, mais en tout cas, c'est pas elle qui a lu ce texte-là, c'est sûr. Enfin bref, quand même, si vous connaissez du monde, ben voilà. En fait, tous les domaines clés de l'emploi, mais aussi le logement, même les réseaux pour une réussite durable au Canada... l'intégration professionnelle, l'adaptation culturelle, la gestion financière, les démarches administratives. Tiens, la santé. Comment trouver un médecin de famille au Canada? Moi, je recommande à tous les Canadiens et tous les Québécois d'aller le lire. Ça va peut-être leur donner des idées pour en trouver un. Enfin, bref, ça, c'est un guide qui s'adresse à ceux qui cherchent à s'établir durablement en évitant les erreurs fréquentes. C'est exactement ces mots tels qu'on les a entendus, mais moi j'avais envie de rajouter peut-être quelque chose parce que ces nouveaux arrivants, il va y en avoir de plus en plus, ne nous leurrons pas, et il y en a eu toujours depuis la nuit des temps, mes amis. Alors faut pas s'imaginer que ça va arrêter, c'est une réalité géopolitique, c'est une réalité écologique et humaine. C'est pas d'hier qu'on se déplace au-delà de nos frontières de naissance, on l'oublie un petit peu trop, mais les incessants déplacements, oui, des uns et des autres. Alors, il y a ceux qui arrivent, les uns, et qui dérangent les autres, qui vont bouleverser leur vie. Mais ne serait-ce qu'en Amérique, les natifs existent. On les connaît, mais ils ont vu leur territoire envahi. Puis d'ailleurs, quand je dis les natifs, d'où viennent-ils? Ce serait intéressant. Je n'ai aucune espèce d'idée, moi. D'où viennent les Premières Nations? De quelles origines elles sont en territoire américain? Alors, c'est ça la vie. Et puis, on n'y peut rien. J'avais juste envie d'amener mon grain de sel là-dessus. Mais bon, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû, mais ça fait rien. Et puis, ben, parfois, quand on arrive dans le plus beau pays du monde, ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'on avait rêvé, désiré, espéré. Ce qui m'a permis de découvrir les mots de Michel Matteau dans un livre qui s'appelle « Entre ici et là-bas ». C'est donc un livre audio d'ici, lu par Leïla Donabel Cazé. On en écoute un extrait.
C'est la vie rêvée ici. C'est ici la terre promise. Une blague, pire, un mensonge, un leurre super ridicule. Je me suis fait avoir. Papa s'est fait avoir, maman aussi. Nous nous sommes tous fait avoir. Moi et mon petit frère Zachary, et même Marie-Neige, la seule Canadienne de naissance dans notre famille. Pour l'instant, elle ne comprend rien de tout ça, mais un jour, elle aussi, elle se fera piéger par l'espoir. Moi, j'en souffre plus que mon frère et ma sœur parce que je suis celle à qui on a promis une vie meilleure quand nous étions encore là-bas. Et j'étais assez âgée pour y croire. Je m'en souviens encore un peu de là-bas. Je me rappelle les collines rondes et verdoyantes, les plantations de café et de thé, les hauts plateaux couverts d'eucalyptus, le lac si grand qu'on y aurait dit la mer, la pluie douce qui féconde tous sous une température tiède. Pas d'extrême comme ici. Je me souviens des bruits de la ville où j'habitais, si différents de ceux d'ici, les pétérades continues des motos, le ronronnement des vieux moteurs, les cris joyeux du marché, les gens souriants qui se saluent bien fort en lançant des blagues. Je revois aussi les couleurs qui éclatent au soleil, l'ocre de la terre, l'orange et les roses vinées des tissus, l'éclat doré des fruits mûrs, le vert brillant des légumes frais, le bariolet violent des affiches sur les murs. Je me souviens de qui j'étais et de qui je voulais devenir alors. J'avais des rêves plein la tête et le cœur, des rêves à vivre là, au pays de mes ancêtres.
« Toujours dans le cadre de mes recherches sur les livres audio consacrés au phénomène de l'immigration, j'ai trouvé celui-ci, le prochain, sur le site de Radio-Canada, le site audio, livre audio de Radio-Canada. Ça s'appelle « Faire sa place, récit d'immigration et d'émancipation ». Narration Inès Talbi, c'est réalisé par Soumaya Arbaoui. Et c'est vraiment une trouvaille. On est dans le vif du sujet avec ce livre-là. Et en compagnie de Lobna, Razan et Amel, qui sont toutes trois immigrantes. Elles viennent respectivement de la Syrie, du Soudan et de l'Algérie. Et elles ont en commun une réelle volonté d'émancipation et elles cherchent à se bâtir une nouvelle vie au sein de leur société d'accueil. C'est une série qui documente leur parcours, donc vraiment très très intéressante série, très bien faite, très bien réalisée, alors qu'elles découvrent le pouvoir transformateur des amitiés via un programme québécois de jumelage interculturel. C'est fort intéressant. Par exemple, il y a Lobna qui a dû fuir la Syrie avec son mari et ses quatre enfants en 2016. Quand elle est arrivée au Canada, c'est Jocelyne, sa partenaire québécoise de jumelage, qui lui a permis de trouver ses repères. Même chose pour Razan, une réfugiée soudanaise qui est aujourd'hui aux prises avec un dilemme déchirant. On va entendre ça dans l'extrait. Et puis, c'est également comme cela que Amel a rencontré Lobna, qui elle, de plus en plus, se fait pour mission de se faire rencontrer des gens d'ici et d'ailleurs. Et là, elle tente de trouver absolument une partenaire amicale à Amel, originaire d'Algérie. Razan, qu'on va entendre maintenant, du moins par la voix d'Inès Talbi, elle cherche une solution pour permettre à sa famille soudanaise de trouver refuge en Amérique du Nord, on va l'entendre. Alors qu'une première décision s'impose pour elle maintenant qu'elle a posé ses valises, qu'elle est arrivée à bon port, il y a une autre séparation qui la guette. Extrait de « Faire sa place, récit d'immigration et d'émancipation ».
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici.
C'était directement après la guerre en Soudan que j'ai décidé que, OK, je dois avoir quelques supports avec moi. Je bois mon café le matin avec eux dans le balcon. Demain, ça va être une journée difficile pour moi parce que je vais leur donner de la SPCA de Montréal. Je ne suis pas capable de lui offrir l'opération. Et je n'aimerais pas leur séparer. Ça va être trop difficile pour moi, mais j'ai fait cette décision pour eux aussi.
Ce n'est malheureusement pas la seule décision difficile à laquelle Razan a été confrontée ces derniers temps. Avec la situation qui s'aggrave au Soudan, la famille de Razan a été disséminée un peu partout à travers le monde. Razan est la cadette d'une famille de 5 enfants. Elles sont 3 filles et 2 garçons. Razan et un de ses frères ont réussi à trouver refuge au Canada, alors qu'une de ses sœurs et leurs parents ont pu immigrer vers les États-Unis. Dans son pays d'origine, il ne lui restait qu'une sœur et un frère, tous deux avec leurs familles respectives, jusqu'à ce que les risques deviennent insoutenables.
Quand la guerre a commencé, ma sœur qui habite au Soudan, elle était au Saudi Arabia et l'aéroport, c'était la première place à être détruite. Et sans pas eu l'opportunité de retourner et ses enfants sont étaient au Soudan dans le milieu de la guerre. Elle était trop terrifiée et elle a voyagé en Égypte et elle a demandé à son mari d'amener les enfants et venir en Égypte. Alors, ça les prend 5 jours pour voyager de Khartoum à Cairo. Et c'était terrible pour les enfants. Et le plus jeune, il est 6 ans. Et c'était un voyage trop difficile pour lui sans sa maman.
Son frère a choisi de rester au Soudan en espérant que les choses se règlent rapidement.
Alors, elle a amené son famille et voyagé à l'intérieur du Soudan. Mais c'était trop intense parce que à chaque fois, elle trouve like, une maison, quelque place pour rester dans un village. Sont été attaqués. C'était trop difficile pour leur enfant. Alors, elle a décidé de sortir, d'aller en Égypte après 1 an. Maintenant, sont deux en Égypte, ma soeur et mon frère avec leur enfant. Et on était trop contentes qu'ils aient été ensemble aussi.
La famille de Razan n'a pas été réunie depuis plus de 11 ans. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Sa sœur, qui vit en Égypte, attend une réponse du gouvernement américain pour sa demande d'immigration depuis 17 ans. Et son frère, aussi en Égypte, a quant à lui fait sa demande auprès du Canada en 2023. Ce sont pour eux et leurs enfants que Razan et son frère, qui habitent en Ontario, s'inquiètent. Ils font des démarches pour les aider à venir les rejoindre au Canada. Mais Razan a peu de latitude, comme le Québec ne permet pas aux réfugiés soudanais de rapatrier leur famille, contrairement au reste du Canada.
Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
Je suis incapable de rester les yeux secs quand j'écoute cette chanson « Aller sans retour » de Juliette Nourédine. Si vous faites simplement « Juliette, aller sans retour », vous allez tomber dessus, chef-d'œuvre, sur ces gens qui émigrent. Et si j'ai choisi de laisser la musique jusqu'au bout, c'est parce qu'il me semble tellement les voir, avec leur valise au bout du bras, que ce soit sur un quai de gare ou dans un aéroport ou dans un bateau. Hein? Alors, on continue sur l'émigration, sur le déracinement, sur le déplacement, avec 2 tomes. J'ai failli dire une série, mais 2 tomes, est-ce une série ? En quelque sorte. Ça s'appelle « Les déracinés », c'est de Catherine Bardon. C'est lu pour le tome 1 par François Delève et par Ludmila Ruosso pour le tome 2. Le tome 1 se déroule à Vienne en 1932. Et si on, déjà, et on dit 32 à Vienne, on voit déjà tout de suite ce qui s'en vient. Nous sommes au milieu d'un joyeux tumulte, oui, parce qu'à l'époque c'est comme ça, avec Wilhelm qui est un journaliste, Wilhelm qui, on va l'entendre dans l'extrait, a refusé de reprendre l'imprimerie de papa, le papa qui est de confession juive, donc toute la famille l'est aussi. Et à un moment donné, à cause de ça, ils n'auront pas de choix. Lui et son amour, Alma, vont être condamnés à l'exil. Ils vont partir en République dominicaine. Pourquoi ? Parce que le dictateur local à l'époque, ça j'ignorais ça, a offert 100 000 visas à des juifs venus du Reich, en plein milieu de la jungle brûlante de la République dominicaine. Il y a 100 000 juifs qui se sont installés là pour se refaire une vie. Et le tome 2, on est avec Ruth, qui est la fille de ce couple-là. Et alors, on va dans l'extrait qu'on va entendre, parce qu'il va y avoir comme deux parties dans l'extrait, on va la retrouver avant qu'elle-même décide de partir. Elle-même va décider de quitter cette terre d'accueil pour aller en chercher une autre, en l'occurrence New York et les États-Unis. Donc on est vraiment dans le sujet avec les Déracinés, tome 1 et tome 2. Alors un extrait en deux parties. Le premier vient du tome 1 à Vienne et le deuxième, on est en République dominicaine, le tome 2, les Déracinés.
Chapitre 2. L'imprimerie. 1931. Ville reprendra le flambeau. Il sera la troisième génération d'imprimeurs, clamait fièrement Jacob Rosenheck, à qui voulait l'entendre. Mon père avait transformé le modeste atelier en une entreprise moderne et prospère, qui était sa fierté, l'accomplissement d'une vie. Ma destinée était écrite. Très peu pour moi. Je ne reprendrai pas les rênes de l'imprimerie. Je ferai tout pour échapper à ce destin. J'étais prêt à affronter ses foudres, sa déception, voire son mépris. Et le cas échéant, à partir vivre ma vie loin du toit familial. Mes diplômes en vue, je n'avais plus d'autre choix que de l'informer de ma décision. J'avais longuement mûri ma stratégie pour affronter mon père. Une chose était sûre, ça n'allait pas être facile. Je connaissais son caractère despotique, sa détermination, et surtout les espoirs qu'il fondait sur moi. L'imprimerie, c'était toute sa vie. Il ne pouvait même pas imaginer que je puisse avoir une autre ambition. Ce soir-là, après le dîner, je l'avais invité dans un café pour une discussion d'homme à homme. Il s'était plié de bonne grâce à ma proposition. À coup sûr, il croyait que j'allais lui annoncer un projet de fiançailles ou quelque chose de cet ordre-là. Tout guillerait, il m'emmena dans un petit café du quartier où il avait ses habitudes. C'était un endroit bien moins raffiné que les cafés littéraires du centre que je fréquentais, mais on s'y sentait un peu comme chez soi. Nous eûmes du mal à nous frayer un chemin dans la salle enfumée et bruyante, bourrée de joueurs de tarot et d'échecs. Des signes de tête ici et là saluaient notre progression. Mon père était un notable respecté dans le quartier. Nous investîmes une table qui se libérait au fond de la salle. Mon père commanda d'autorité deux schnapps. « Alors, Wilhelm, de quoi voulais-tu me parler ?»« Wilhelm ?» D'habitude, c'était « Ville ». Mon père ne m'appelait « Wilhelm » que dans les circonstances solennelles. Je le regardais en biais, gêné. Des coudes sur la table, les poings fermés sous le menton, il penchait légèrement vers moi son visage bourru.
Chapitre 2. La vie continue. Septembre 1961. Les épaules basses et le cœur lourd, Alma quitta le port à pas lents pour rejoindre sa voiture qu'elle avait garée non loin du quai, dans l'ombre déclinante d'un cocotier. Elle avait tenu à ce dernier tête-à-tête avec Ruth. Le départ du bateau lui avait donné envie de pleurer. Elle s'était retenue. Il ne lui restait plus qu'à regagner la pension des Kriegermann. Elle n'avait pas envie de rentrer directement. Irène allait encore lui rebattre les oreilles de cancan à n'en plus finir. Alma décida de s'octroyer un entracte. Elle gara la Buick non loin de la pension et se dirigea vers la place de la cathédrale. Il était toujours là, le banc sur lequel il s'était assis avec Wilhelm, plus de 20 ans auparavant. Il venait à peine de débarquer. Alma s'arrêta et des images l'envahirent, traîtreuse. Will était assis à côté d'elle. Elle se rafraîchissait le visage avec un éventail de toile. Les bras écartés, la mine réjouie, Frédéric trottinait derrière les pigeons. Elle se souvint du vieil homme élégant qui leur avait si gentiment parlé, un vrai gentleman. Du petit Limpia Bottas qui avait astiqué les chaussures de ville. Où étaient-ce les siennes? À l'époque, elle avait trouvé tout cela terriblement exotique. Le temps avait passé tellement vite. Maintenant, ce décor lui était familier. Elle était chez elle. Mais elle était seule. L'espace d'un instant, elle se dit qu'ils étaient là, les esprits de ses chers disparus. Ses parents, Sophie, Will, des anges bienveillants. Elle aurait aimé croire que Will était quelque part, pas très loin, qu'il la protégeait, l'encourageait. Fadaise. Ça la réconfortait, mais Will était simplement couché en terre, sous une pierre surmontée d'un tas de cailloux, à l'ombre de la ramure d'un flamboyant. La vie continuait, ici et maintenant. Demain, Alma affronterait seule l'épreuve des 10 heures de route pour rentrer à Sosua. Elle se serait bien attardée en ville, mais même en cherchant bien, elle n'avait rien à y faire. Et puis, elle devait rentrer. La saison des cyclones était déjà bien entamée. Il fallait veiller aux grains, et ils ne seraient pas trop nombreux pour faire front et s'occuper des bêtes en cas de colère du ciel. Alma s'ébroua, épousta sa robe et reprit le chemin de la pension. Elle sourit à la perspective de la citronnade glacée avec laquelle l'accueillerait Irène.
Juste avant de prendre un bateau qui l'amènera à son tour aux États-Unis, extrait de Les Déracinés, tome 1 et tome 2. Ça met un terme à cette première partie du balado des livres pleins les oreilles que je voulais consacrer à l'émigration et à ceux qui immigrent notamment chez nous.
J'étais petite fille dans une petite ville. Il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous. Puis il y avait les autres, les étrangers. L'étranger, c'était l'Italien, le Polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. Et ma mère, comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est ainsi que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, la crainte, mais non pas le respect. Dépaysé au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous.
Plein les oreilles, Clotilde Sey pour vous accompagner, mais là je suis pas toute seule, je vais joindre tout de suite mon ami Gérald Cousineau. Salut Gérald.
Salut Clotilde.
Alors Gérald, un choix, un livre dont personnellement j'avais très peu entendu parler, puis c'est très bien comme ça, parce que c'est vrai que souvent on parle des livres primés ou des livres dont on parle beaucoup, bon, mais c'est bien aussi de découvrir une autre plume, alors je te la laisse nous la présenter.
En fait, pour être franc, je ne connaissais pas du tout Justine Lévy. Pas du tout. Tout récemment, j'ai lu un ou deux de ses livres avant de m'attaquer au livre dont je vais parler aujourd'hui. une drôle de peine. Mais j'ai appris qu'elle était éditrice et bon, écrivaine française, née en 1974, et c'est la fille du très coloré et controversé Bernard-Henri Lévy, le philosophe français BHL, comme on dit parfois.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Alors donc, c'est sa fille, et d'ailleurs le nom, le père revient souvent dans le roman. Je vais juste résumer avant qu'on passe à l'extrait.
D'accord.
C'est alors qu'elle est enceinte de son premier enfant, Justine perd sa mère qui était Isabelle, et attention au nom, Isabelle d'Outreluigne, c'est pas mal comme nom ça, d'Outreluigne, et je dirais ce qu'elle faisait cette dame, donc elle perd sa mère, et là, bien sûr, elle va évoquer la filiation, les souvenirs, le manque, je dirais surtout le manque, elle va retourner dans la maison familiale, elle va même se rendre en Inde parce que sa mère s'y est rendue, donc voilà. Mais avant d'aller plus loin, écoutons l'extrait, on en apprendra un petit peu plus.
D'accord.
Maman, dans ses bons jours, quand elle se rappelait qu'elle était belle, se maquillant les cils avec une petite brosse, très près du miroir, œil sur œil, nez contre nez. Elle est si myope. Et Violaine, assise en tailleur sur le tapis lustré d'usure, qui staille les ongles des pieds en tirant la langue. Je pouvais rester là. Admirer jusqu'à la fin des temps, maman s'appliquant ensuite une poudre pailletée au coin des yeux. Et regarder avec tout mon dégoût, Violaine qui s'épluche maintenant la corne du talon. Elle ne me remarque pas, ni l'une ni l'autre. Ou alors pas plus qu'un meuble. Une petite chèvre à son piquet, un cheveu sur la soupe de quelqu'un d'autre. À cette époque, il n'y avait pas de pas devant les enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Il y avait les adultes et une mini-adulte. Une adulte mineure. Une adulte miniature. Il y avait leur sexe poilu, hirsute, abominable. Et sous mon nez, tout le temps, ces choses que j'aurais voulu ne pas voir. Dévoir, déconnaître, désapprendre. C'est fou, comme on sent à 4 ans, 5 ans, quand le monde tourne à l'envers. Je n'étais pas traumatisée, mais je plaçais ça assez haut quand même sur l'échelle du pas chouette du tout et du puzzle raté. Presque aussi haut que quand Violaine rentrait saoule ou défoncée, sans maman, et qu'elle se trompait de lit, s'étalait sur le mien, et je me ratatinais tout au bout, ou parfois sur le sofa du salon. Mais l'odeur de Violaine rentrée sans maman restait dans mon oreiller pendant des jours et des jours.
Ouf.
Voilà.
Ouf, bon début. Pas simple, pas simple, hein. Fille de philosophe, n'est-ce pas?
Oui. Et pour revenir à ce philosophe, il avait épousé cette dame qui était mannequin au départ. Donc cette Isabelle d'Outreluigne était mannequin, mais leur mariage n'a pas duré longtemps. Ils se sont séparés assez tôt, et le temps de faire un enfant, et l'enfant semble avoir été conçu en Inde. Cet enfant, bien sûr, c'est Justine Lévy. D'accord. Elle semble avoir été conçue en Inde. Donc, Justine Lévy raconte une drôle d'enfance, parce que sa mère était toxicomane, la maison c'était un vrai bordel, il y a des ordres incroyables, si on se fie à Justine Lévy, et il y avait surtout des amants et des amantes. Et cette Violaine dont on parle dans l'extrait, c'était une de ses amantes. Il y avait la drogue, bien sûr, là-dedans. Alors imaginez la petite fille, Justine Lévy, qui elle...
Mais une des amantes, excuse-moi, de la mère?
Oui, de la mère, parce qu'elle avait des amants et des amantes. Et Violaine a été une amante, et c'est la Violaine dont parle l'extrait. Ah. Alors, la petite fille est là, devant les deux femmes qui sont nues, et qui se maquillent ou qui se coupent les ongles.
Oui, d'accord.
Donc, comme si de rien n'était. Donc, elle a vécu là-dedans. Elle a vécu dans ce désordre continuel. Elle en est venue à être un peu la responsable de sa mère. Et elle va dire quelque part... Elle n'a pas eu d'enfance. Le vert paradis des amours enfantines, bon, la narratrice n'a pas connu ça. Je vais même taper sur ceux qui pensent que l'enfance, etc., c'est beau, s'il y a les enfances. Elle, non, ne l'a pas. Elle dit, je n'ai pas pu être une enfant et je ne sais pas être une adulte. Et dans sa vie, elle va essayer de... Elle idéalisait le père, que c'est souvent le cas. Elle dit, je sais que pendant un certain temps, elle va vouloir ressembler. Elle dit qu'elle va ressembler à son père, et comme lui, elle aura une barbe. Elle met le père très haut, et elle ajoute, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas ressembler à sa mère. Elle fait tout ce qu'elle peut, tout ce qui est possible pour elle pour ne pas ressembler à sa mère, tellement sa mère n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer normalement dans la société, disons, dans une famille normale, entre guillemets. Donc c'est ça. Mais dans ce portrait qui peut paraître dur, oui, eh bien non, il y a énormément de tendresse. Parce que cette mère-là, même si elle est morte jeune, elle est morte à 54 ans d'un cancer, oui, mais cette mère-là, elle l'a aimée. Et elle est obsédée, littéralement, elle le dit. Je suis obsédée par ma mère. Alors elle va à son tour se rendre en Inde sur les traces de sa mère et de son père. Et là, elle va être confrontée à la misère, évidemment. Et elle se demande constamment comment sa mère se serait débrouillée dans un cadre pareil. Qu'aurait fait ma mère? C'est la question qu'elle se pose. Qu'aurait fait ma mère ici, avec les mendiants, etc.? Qu'aurait fait ma mère? Mmh. Donc, partout, c'est la mère. Et elle va dire à la fin, ici, en Inde, ma mère n'est pas morte. Mais j'ai envie de dire, ben en France non plus, elle n'est pas morte puisqu'elle y part tout le temps. Et c'est curieux, mmh, parce que dans ses autres livres, elle parle aussi de sa mère.
C'est
comme
ça.
Si la blessure ne s'était jamais refermée.
Oui, parce que « Mauvaise fille », c'est quelque chose que vous avez, oui, lu. Alors là on tourne autour du même sujet, non?
Oui, c'est la toujours... gaieté aussi. La gaieté aussi, c'est toujours la mère en allée trop vite ou la mère qui n'aurait pas joué ce rôle. Mais en même temps, Justine Lévy lui garde une tendresse incroyable parce que, oui, c'était ce livre-là, c'est bon, il y a des passages légers. Par exemple, quand elle va rencontrer l'oncle, enfin le frère de sa mère pour en savoir, oui, davantage, mais c'est assez burlesque parce que l'oncle est complètement parti là. Donc c'est assez burlesque. Mais en même temps, donc il y a le côté léger, il y a beaucoup, oui, d'humour là-dedans, mais il y a le côté grave aussi, oui, parce qu'on sent la déchirure, la blessure qu'elle veut combler, mais elle n'y arrive pas facilement. Et c'est curieux, parce que cette Isabelle, d'autre lui, moi j'ai eu envie de la connaître davantage. Ben, j'ai lu un témoignage de Marie, Bernard-Henri, oui, Lévy, en 2008, il dit que c'était, bon, on savait, c'est une femme très belle, fantasque, et qui n'écoutait qu'elle-même. Elle avait sa propre loi, elle se foutait complètement du jugement des autres, de la société. Donc, à ce point de vue, elle était courageuse. Il y revient, il dit que c'était la dernière femme surréaliste qu'il ait connue. C'était, pour lui, il la comparait à Gala, la compagne de Salvador, oui, Dali, c'est quand même, oui, quelque chose.
Oui, oui.
Donc, avant d'être mannequin, c'était ça pour elle. Il est content, il est heureux, il dit que des femmes comme Isabelle, d'autres lui, il n'en a pas connu beaucoup. Mmh. Eh bien, ça m'a intrigué. Effectivement, je me suis rapproché d'elle et je me suis rendu compte que malgré son côté très, très peu maternel, c'était une femme qui valait la peine de raconter, qui valait la peine d'être racontée, tout un sujet, tout un personnage. Fait que ce livre-là, finalement, je l'ai écouté deux fois,
oui,
avec grand plaisir. Et ça, effectivement, peut-être que les gens auront le goût d'écrire d'autres. Elle n'a pas écrit beaucoup de livres, je pense qu'elle en a rendu à quatre ou quelque chose comme ça. Mais peut-être que les gens auront le goût d'aller découvrir d'autres livres de cette dame. Mais j'avoue que comme personnage, oui, féminin, sa mère ne donne pas sa place.
Non, mais je ne sais pas, moi je vous entends, mais ça m'avait l'air surtout d'une femme qui souffrait, non?
Oui, elle était, d'ailleurs, je reviens à Bernard-Henri Lévy, il dit d'elle qu'elle était à la fois lumineuse et tourmentée. Mais je pense, oui, que c'est exactement l'image qu'on, oui, peut retenir du livre de sa fille. Lumineuse, oui, parce qu'elle, bon, était très belle, très fantastique, mais tourmentée. D'où la drogue, parce qu'il y a des scènes très, très dures où elle est par terre, couchée par terre, les amis drogués dans l'appartement, c'est incroyable. On dit, comment une enfant a pu survivre à ça et pourtant elle a survécu. Mais en même temps, c'est un personnage tellement fort, qui sort tellement de l'ordinaire qu'on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Mais évidemment, c'est pas donné à tout le monde de vivre une enfance pareille. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Justine Lévy va dire qu'à l'opposé de sa mère, à laquelle il ne voulait pas ressembler, elle va dire qu'elle-même est devenue une enragée de la normalité, une mormone de l'ordre familial. Elle en met beaucoup, là. Mais elle fait tout, effectivement, pour vivre sa maternité ou sa parentalité autrement que celle qu'elle a connue, évidemment. Mais N'empêche qu'on la sent attirée vers cette femme mystérieuse qui a été sa mère, qui n'a pas joué le rôle qu'on s'attendait qu'elle joue. Mais quand même, quel personnage.
Et puis je lisais dans une critique, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais comment a-t-elle fait cette Justine Lévy pour sortir de ce chaos que fut la famille? Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais oui, le père était là, mais le père, là, on sait ce qu'il en a dit maintenant, mais dans le livre, est-ce qu'il apparaît?
Oui, dans les moments difficiles, il y a recours à lui, parfois c'est pour de l'aide financière, il est toujours là, par contre. il l'appelle, donc finalement, il est là, un espèce d'ange gardien, là. Ça, il faut le reconnaître. Parce que lui aussi, c'était un personnage assez fantasque, hein. Il est toujours il faisait le tour du monde, etc. Mais quand même, il y avait un lien très fort entre les deux.
Mais il n'a jamais démonisé sa femme, c'est ça que je veux dire.
Non,
ni de son vivant, ni de sa mort.
De son vivant, je ne sais pas. Mais l'hommage qu'il lui rend en 2008, en tout cas, est très beau, très beau.
Ah ben, j'irai écouter ça. Et puis, encore une fois, tu me donnes envie, Gérald, de lire ce livre dont tu nous parlais ce matin, Une drôle de peine, de Justine Lévy.
D'autant plus qu'il se lit très bien, il est très court.
Il est court,
moins de 200
c'est
pages.
Ça.
Oui, il fait moins de 200 pages.
Bon, ben, c'est parfait. C'est-à-dire, en audio, ça fait 4h14.
Oui, la voix qu'on entendait tout à l'heure était très belle.
Ah oui, alors ça, c'est la voix de Rachel Arditi. Et à chaque fois, je me dis, serait-ce la fille d'eux Pierre Arditi, c'est ça, oui. Comédien. C'est fort probable, mais à chaque fois, j'oublie d'aller regarder et je vois mon Mathieu qui se rue sur son cellulaire pour faire une
Pierre
recherche.
Arditi qui a lui-même une fort belle voix.
Oh, oh mon Dieu, oui. Oh là là. Oh là là. Ben, il en a lu beaucoup aussi. Hein. Il en a lu pas mal.
Je ne le savais pas, mais je suis heureux de le connaître.
Ah, écoute, il en a lu des livres audio. C'est sûr. Non, alors ce ne serait pas la fille. Alors c'est peut-être une petite nièce, ou allez savoir, parce qu'Arditi, il n'y en a pas tant que ça. Mais un Gérald Cousineau, ça c'est unique. Merci Gérald.
Mais de rien, au plaisir, Clotilde.
Ben, à dans deux semaines, si je me fie à mon agenda. Salut, bonne journée.
Salut.
Ah, cher Gérald, nous voici à l'heure des nouveautés. J'en ai trois à vous proposer aujourd'hui. D'abord, et aussi parce que février, ne l'oublions pas, c'est le mois qui souligne l'histoire des Noirs. Alors, j'ai eu envie de vous parler du petit dernier de Chimamanda Ngozi Adichie. On va l'appeler Adichie d'ailleurs, parce que tout le monde l'appelle Adichie. Madame Adichie, c'est son nom de famille. C'est lu par Sephora Pondy et c'est sorti le 2 février en audio. Ah, j'ai oublié de vous dire, Une drôle de peine, c'est aussi une nouveauté. C'est sorti à la fin de l'année dernière, à la fin 2025. Alors, Autour de ton cou, de Madame Adichie, on revient au thème de l'immigration. On est avec Akuna qui quitte le Nigeria pour les États-Unis. Elle quitte le pays après avoir... En fait, c'est un coup de peau énorme. Comment a-t-elle réussi à obtenir un visa? C'est un coup de chance vraiment inouï. Lauréate d'ailleurs de la loterie des visas, c'est ce qu'on nous dit dans le début du résumé du livre. Elle est dans le nord du Nigeria, à Kano. Et au moment où le livre commence, il y a une violente émeute intercommunautaire qui réunit deux femmes que tout sépare. Il y en a une qui est marchande d'oignons, musulmane, et l'autre est une étudiante issue de la bourgeoisie chrétienne de Lagos. Ça fait partie des quelques personnages que l'on retrouve dans ce livre magique dont je vous rappelle le nom, Autour de ton cou, ce sont des personnages complexes, riches. On est dans la réalité nigériane d'aujourd'hui, dont finalement on sait peu, on est rarement allé dans ces pays-là. Il y a rarement eu des livres, merci Madame Adichie, pour en être témoin. Et c'est à la fois terrible, mais aussi drôle, c'est vibrant d'humanité. Ce sont 12 nouvelles. Certaines sont situées en Amérique, d'autres sont situées en Afrique, mais elles sont toutes menées et portées par des femmes, et des femmes nigérianes. Parce que n'oublions pas que Madame Adichie, en dehors du fait qu'elle est une merveilleuse autrice, est aussi une féministe à ses heures et accomplie. Alors, Autour de ton cou, de Madame Adichie, lu par Sephora Pondy, un extrait.
Mon père a demandé à Namabia d'écrire un rapport. Comment il avait vendu les bijoux, en quoi il avait dépensé l'argent, avec qui il l'avait dépensé. Je ne pensais pas que Namabia dirait la vérité, et je ne crois pas que mon père s'y attendait non plus. Mais il aimait les rapports, mon professeur de père. Il aimait que les choses soient dûment consignées et documentées. Par ailleurs, Namabia avait 17 ans et une barbe taillée avec soin. Il se trouvait dans cet intervalle entre le lycée et l'université. Trop âgé pour les coups de bâton, qu'aurait pu faire mon père. Une fois que Namabia eut écrit le rapport, il l'a rangé dans le bloc tiroir en acier de son cabinet de travail, où il gardait nos documents scolaires. Quand je pense qu'il a pu faire une peine pareille à sa mère, a marmonné mon père, et c'est la dernière chose qu'il en a dite. Namabia, pourtant, n'avait pas cherché à lui faire de la peine. Il avait agi de la sorte parce que les bijoux de ma mère étaient les seuls objets de valeur à la maison. Toute une vie d'articles en or massif amassés tour à tour. Il avait agi de la sorte, aussi, parce que d'autres fils de professeurs le faisaient. C'était la saison des vols dans notre paisible campus de Nsuka. Ces garçons qui avaient grandi avec Sesame Street et Enid Blyton mangeaient des cornflakes au petit déjeuner toute leur enfance durant et portaient des sandalettes soigneusement cirées pour aller à l'école primaire du personnel universitaire. Les voilà qui découpaient aujourd'hui les moustiquaires des fenêtres de leurs voisins, en retiraient les lames de verre et grimpaient dans les maisons pour voler télévision et magnétoscope. Nous connaissions les voleurs. Le campus de Nsuka était tellement petit, avec ses maisons alignées dans des rues bordées d'arbres, séparées seulement par des haies basses, que nous ne pouvions pas ne pas savoir qui volait. Pourtant, quand leurs parents, tous professeurs, se croisaient au club des enseignants, à l'église ou à une réunion du conseil de faculté, ils continuaient de se plaindre de la racaille de la ville qui venait commettre des cambriolages dans leur sacro-saint campus. Les garçons qui volaient étaient les plus populaires. Le soir, ils prenaient la voiture de leurs parents et roulaient le siège repoussé en arrière, bras tendus pour tenir le volant. Aussitôt, le voisin qui nous avait délesté de notre télévision quelques semaines à peine avant l'incident de Namabia était agile et beau, dans le genre ténébreux, et il se mouvait avec une grâce féline. Le jour où il nous a cambriolés, mes parents ne sont pas allés chez le professeur Eboubé lui demander d'exiger de son fils qu'il nous rapporte nos affaires. Ils ont dit en public que c'était la racaille de la ville. Mais ils savaient que c'était Ossita. Ossita avait 2 ans de plus que Namabia. La plupart des garçons qui volaient étaient un peu plus âgés que Namabia. Et peut-être était-ce la raison pour laquelle Namabia n'avait pas cambriolé la maison de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il ne se sentait pas assez âgé, pas assez qualifié, pour s'attaquer à plus gros morceaux que les bijoux de ma mère.
Allez, au chapitre des nouveautés, on quitte le Nigeria et on s'en va en Chine. En Chine, avec une histoire qui est inspirée de faits réels. C'est une guerre que l'empereur du milieu du monde va déclarer aux ennemis du pouvoir. Va-t-il réussir ou plonger son pays dans le chaos? Vous imaginez bien qu'on est en pleine culture chinoise au moment de la chute progressive de la dynastie de cet empereur-là, du milieu du monde. Si vous aimez les sentiments, les combats, les trahisons, les amours, les vengeances, les rebondissements, cette plongée au cœur d'une Chine méconnue est magnifiquement menée par son auteur qui s'appelle Baptiste Touveret et c'est lu par Sylvain Agaès, extrait de « Comme un tigre de feu ».
Père, à l'évidence, attendait le premier prétexte venu pour laisser exploser sa colère. Un mot de plus, et il accuserait Chimine d'être responsable de la catastrophe qui frappait la famille, de ce cadavre à leurs pieds que tous contemplaient avec consternation. L'enfant préféra donc se taire. Il savait qu'il avait raison. Que c'était un félin ou un animal approchant, solitaire, plus gros qu'un loup en tout cas, qui avait sévi. Il le leur prouverait bien assez tôt. Il avait un plan. En cet instant, du reste, qui était le plus à plaindre? Sûrement pas lui, il en avait conscience. Non loin, en retrait, le régisseur du haras baissait les yeux. Et malgré le froid mordant, à la lueur de la torche qu'il tenait dans sa main, on discernait de fines gouttes sur son front, qui n'étaient pas que de neige fondue. L'homme, emmitouflé sous un manteau de feutre brun, ignorait si le lendemain il occuperait encore son poste, si dans un mois il vivrait. C'était lui qui les avait avertis. et il fallait reconnaître en sa faveur qu'il n'avait pas perdu de temps. Le message était arrivé en fin de matinée. Aussitôt, Père avait décidé d'aller constater en personne l'ampleur du désastre. Chaque occasion de s'échapper de la petite ville poussiéreuse et déprimante qu'on lui avait assignée en tant que gouverneur était bonne à prendre. Huachi devait l'accompagner, comme toujours, afin de s'instruire. Chimin avait insisté pour venir lui aussi. Il adorait les beaux chevaux du haras impérial, et cette histoire d'agression nocturne avait enflammé son imagination. Bien sûr, maintenant, devant la carcasse à moitié dévorée de l'un d'eux, l'horreur et le dégoût avaient un peu attiédi son enthousiasme. La victime valait une fortune, un vrai gâchis. C'était l'un des très rares étalons du couchant qu'on avait réussi à cheminer jusqu'au milieu du monde. La propriété de l'empereur, l'une des pièces maîtresses de sa cavalerie, comme le rappelait la marque tatouée sur son épaule droite, que le prédateur semblait avoir pris un malin plaisir à laisser intacte. La famille Li en avait la garde, et elle avait manqué à ses devoirs. Un remblai de terre, sur lequel on avait érigé des palissades, entourait le domaine. Des fortifications sommaires, mais suffisantes en temps normal pour décourager une attaque des nomades et rendre impossible l'intrusion d'un prédateur. À condition, il va sans dire, qu'on ne laisse pas dans un enclos à l'extérieur l'une des montures les plus précieuses du haras. Quand ils furent tous rentrés au chaud, dans la grande salle du bâtiment où le régisseur vivait avec sa famille, celui-ci tenta de se justifier. Ses chevaux du couchant étaient nerveux. Dans l'étroitesse des écuries, ils ruaient, mordaient. Il était impossible de les garder enfermés tout l'hiver. Celui-ci avait déjà blessé plusieurs de ses voisins. « Je pensais qu'une nuit seule au frais le calmerait. Ça n'était pas la première fois. Ça n'a jamais posé de problème. Et il faisait beau hier. » Père, qui venait de s'asseoir en grimaçant devant la table basse, leva impatiemment la main et l'autre s'interrompit. « On en reparlera demain matin, après que tu nous auras servi de quoi manger et qu'on aura dormi. Mes fils, mes hommes, moi, on a tous faim et besoin de repos. »
Une aventure chinoise que je vous proposais là, il paraît que ça se lit, on n'arrive pas à décoller ses yeux ou ses oreilles de ce livre-là quand on l'a commencé, tellement c'est un tourbillon d'aventures, puis il y a des belles histoires d'amour aussi. Plage Laval de Raphaël Germain fait partie, avec fierté, je l'espère qu'elle est fière d'elle, fait partie des 10 ou 12 livres qui se sont le plus vendus au Québec, toutes nations confondues, francophones, en 2025. Alors je suis heureuse qu'il existe dans sa version audio, lue par Marguerite Bouchard. Le résumé, lorsque le père de sa fille la quitte après 25 ans de vie commune, Laurence décide de tourner le dos au monde et de s'installer dans un vieux chalet sur le bord de la rivière des Mille-Îles. Un projet unanimement décrié par ses proches, mais Laurence n'a que faire de leurs commentaires. À 48 ans, elle considère qu'elle est libre de commettre ses propres erreurs et d'embrasser une saine solitude. Bien sûr, la vie aura tôt fait de la rattraper. Elle va réaliser que ce ne sont pas seulement les rivières qui débordent parfois, mais les femmes aussi, même celles qui s'étaient jurées qu'elles n'avaient besoin de personne et que les grandes passions étaient loin derrière elles. Voici un extrait de Plage Laval de Raphaël Germain, une production québécoise lue par Marguerite Bouchard.
Comment tout a commencé? Difficile à dire. Selon Sarah, c'est quand j'ai décidé d'acheter la maison, malgré les injonctions de la totalité des membres de mon entourage, qui m'ont tous indiqué verbalement, par texto et dans divers courriels qu'il s'agissait d'une idée de marde. La traductrice en moi, toujours à la recherche du mot juste, aurait opté pour une autre formulation comme un choix audacieux, un projet étonnant ou, pourquoi pas, un nouveau départ. Mais je comprenais leur inquiétude et leurs doutes face à mon choix. Moi aussi, j'ai déjà lu quelque part qu'il est préférable d'attendre un an après une grosse rupture pour prendre des décisions majeures telles que, par exemple, tout sacré là pour aller vivre seul dans un vieux chalet en zone inondable. Il me semble aussi que j'aurais pu faire pire ou encore plus intense comme tout sacré là pour aller vivre dans un ashram en Inde ou alors ne rien sacré là et continuer à mariner dans une vie qui me convenait et me ressemblait plus. Ou comme le dit Sarah, me faire impulsivement tatouer l'avant-bras. Elle-même détentrice d'environ 7 tatouages impulsifs, dont au moins 2 amèrement regrettés. Non, c'est pas un sapin de Noël, c'est le cèdre du Liban. Pas de ma faute si le tatoueur était pacté. Elle sait de quoi elle parle. Bref, j'avais beau ne pas avoir la date de ma séparation inscrite sur le bras, j'avais quand même acheté une maison sur un coup de tête. Un choix qu'on pourrait qualifier de controversé, si on peut appeler controverse un remous à l'échelle de mon entourage, somme toute relativement restreint. Mais de là à dire que c'est avec ça que tout a commencé, pas certaine. Marcus non plus, d'ailleurs. Selon lui, si on veut honnêtement établir la cause de quoi que ce soit, il faut alors chercher la cause de la cause, puis la cause de cette cause, et next thing you know, ton ancêtre est en train de descendre d'un arbre dans la savane et de se dire « Hmm, me semble que j'aurais un crazy swag si je marchais juste avec mes 2 pattes arrière. » Go pour l'australopithèque, dit dans ces temps-là Jean-Christophe, qui trouve que tout le monde se pose toujours beaucoup trop de questions et que cela est particulièrement absurde. Rendu là, t'es aussi bien de croire au dessin puis te dire que tout était écrit, non? Il sourit alors, et j'ai un peu envie de suivre son conseil, même si je suis obligée de reconnaître que Mathilde n'a pas complètement tort quand elle affirme que le déclencheur a été le départ de son père, qui m'a laissée, surprise, à quelques semaines de mes 48 ans. Une opinion qui se défend bien et qui tient la route, dans la mesure où il y a certainement eu un avant et un après. L'avant étant la vie que je connaissais depuis 25 ans, et l'après, un champ de mine où j'errais à la recherche de repères, en m'affargeant constamment dans mes souvenirs qui m'explosaient au visage. Boum, l'épicerie du coin où nous allions acheter du lait et du café. Pao, le petit bar près de la maison où nous arrêtions prendre un verre de temps en temps. Et que dire de la maison elle-même, qui était constellée de shrapnel, restant de l'explosion de ce qui avait été notre vie commune. Pas une mauvaise théorie, donc, mais elle semblait un peu facile et surtout, elle me vexait un brin, comme si en pointant du doigt le départ de mon ex, on m'enlevait le peu d'emprise que j'avais encore sur ma vie. Lorsque j'avais expliqué cela à Mathilde, elle m'avait fait remarquer que je n'aurais certainement pas entendu l'appel de la zone inondable si Stéphane n'était pas parti. Mais j'avais scié son appel en lui disant que c'était une version très Stéphane-centriste de l'histoire, qui mettait encore un homme au cœur du récit, et quand je l'ai vu vaciller, j'ai porté le coup de grâce en invoquant le fait que sa théorie mansplainait le fil de mon existence. C'est pas ça que ça veut dire mansplainer, avait-elle bougonné. Mansplainer, c'est quand un gars t'explique quelque chose d'évident comme si t'étais trop cave pour le comprendre.
La voix de Marguerite Bouchard, lisant Plage Laval de Raphaël Germain, une production québécoise, je le souligne parce que ça se fait de plus en plus rare. Alors quand on a la chance de mettre les oreilles sur un produit qui est fait ici, eh bien personnellement ça me réjouit toujours beaucoup. Je m'appelle Clotilde Seille, je suis accompagnée de Mathieu Tessier, j'étais aussi accompagnée de Gérald Cousineau et tout ce beau monde vous dit bonne semaine.